Chapitre 11. La vie du Christ. La vie du Christ fut prédite bien avant sa naissance.
Quiconque vient sur terre dépend de la promesse que Jésus-Christ a faite dans les cieux d'être notre Sauveur. Sans lui, le plan du salut aurait échoué. Comme sa mission était nécessaire, tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au Christ, ont témoigné qu'il viendrait. Voir Actes, chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes depuis le Christ ont témoigné qu'il est venu. Nous devons tous étudier la vie du Sauveur et le suivre fidèlement pendant toute notre vie. Un ange dit à Adam que le nom du Sauveur serait Jésus-Christ. Voir Moïse, chapitre 6, versets 51 et 52. Hénoc vit que Jésus mourrait sur la croix et ressusciterait. Voir Moïse, chapitre 7, versets 55 et 56. Noé et Moïse témoignèrent également de lui. Voir Moïse, chapitre 1, verset 11. Moïse, chapitre 8, versets 23 et 24. Environ 800 ans avant la naissance du Sauveur sur la terre, Ésaü eut une vision de sa vie. Quand il vit la tristesse et les souffrances que le Sauveur subirait pour payer le prix de nos péchés, il s'exclama. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5 et verset 7. Néphi aussi vit la naissance et la mission à venir du Sauveur. Il vit une belle vierge, et un ange lui expliqua. « Voici, la vierge que tu vois est, selon la chair, la mère du Fils de Dieu. » 1 Néphi, chapitre 11, verset 18. Il vit ensuite la vierge tenant un enfant dans ses bras. L'ange déclara. « Vois l'agneau de Dieu, oui, le Fils du Père éternel. » 1 Néphi, chapitre 11, verset 21. Environ 124 ans avant la naissance de Jésus, le roi Benjamin, autre prophète néphite, eut aussi une vision de la vie du Sauveur. Car voici, le temps vient et n'est pas très éloigné, où le Seigneur omnipotent qui règne, qui était et est de toute éternité à toute éternité, descendra du ciel avec puissance parmi les enfants des hommes, et demeurera dans un tabernacle d'argile, et s'en ira parmi les hommes, accomplissant de grands miracles, tels que guérir les malades, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, et guérir toutes sortes de maladies. Et il chassera les démons, ou les esprits malins qui demeurent dans le cœur des enfants des hommes. Et voici, il souffrira les tentations et la souffrance du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Car voici, du sang lui sort de chaque pore, si grande sera son angoisse pour la méchanceté et les abominations de son peuple. Et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de tout depuis le commencement, et sa mère sera appelée Marie. Mosiah, chapitre 3, versets 5 à 8. Question. Quelles sont les prophéties anciennes au sujet de Jésus-Christ?
Il fut le Fils unique du Père.
Question. Qu'est-ce que Jésus-Christ a hérité de son père? Qu'a-t-il hérité de sa mère? L'histoire de la naissance et de la vie du Sauveur se trouve dans le Nouveau Testament, dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Leurs récits nous apprennent que Jésus est né d'une vierge appelée Marie. Elle était fiancée à Joseph quand un ange du Seigneur lui apparut. L'ange lui dit qu'elle serait la mère du Fils de Dieu. Elle lui demanda comment cela était possible. Voir Luc, chapitre 1, verset 34. Il lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc, chapitre 1, verset 35. Ainsi, Dieu le Père devint littéralement le Père de Jésus-Christ. Jésus est la seule personne sur terre qui est née d'une mère mortelle et d'un père immortel. C'est pour cette raison qu'il est appelé le Fils unique. Il a hérité des pouvoirs divins de son Père. De sa mère, il a hérité de la condition mortelle et a été sujet à la faim, la soif, la fatigue, la douleur et la mort. Personne ne pouvait prendre la vie du Sauveur à moins qu'il ne le veuille. Il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de reprendre son corps après la mort. Voir Jean, chapitre 10, versets 17 et 18.
Il a mené une vie parfaite.
Question. Que signifie pour nous la vie du Sauveur? Dès son enfance, Jésus obéit à tout ce qui était requis de lui par notre Père Céleste. Sous la direction de Marie et de Joseph, Jésus grandit en grande partie comme les autres enfants. Il aimait la vérité et lui obéissait. Luc nous dit « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc, chapitre 2, verset 40. Voir aussi Doctrine et Alliance, section 93, les versets 12 à 14. À l'âge de 12 ans, sa compréhension qu'il avait été envoyé pour faire la volonté de son père avait augmenté. Il alla avec ses parents à Jérusalem. Quand ses parents rentrèrent chez eux, ils s'aperçurent qu'il n'était pas avec leur groupe. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, et ils l'écoutaient et l'interrogeaient. Traduction de Joseph Smith, Luc, chapitre 2, verset 46. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Luc, chapitre 2, verset 47. Joseph et Marie étaient soulagés de l'avoir trouvé, mais ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Jésus lui répondit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste ?» Luc, chapitre 2, versets 48 et 49. Pour accomplir sa mission, Jésus devait faire la volonté de son Père céleste. Il déclara « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean, chapitre 8, versets 28 et 29. Quand il eut 30 ans, Jésus vint à Jean-Baptiste pour être baptisé dans le Jourdain. Jean hésitait à le baptiser car il savait que Jésus était plus grand que lui. Jésus demanda à Jean de le baptiser afin d'accomplir tout ce qui est juste. Jean baptisa le Sauveur en l'immergeant complètement dans l'eau. Quand Jésus fut baptisé, son Père parla des cieux et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Saint-Esprit descendit, manifesté par le signe de la colombe. Voir Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Peu après son baptême, Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits pour être avec Dieu. Après cela, Satan vint le trouver pour le tenter. Il résista fermement à toutes les tentations de Satan, puis lui ordonna de s'en aller. Voir Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Voir aussi, traduction de Joseph Smith, Matthieu chapitre 4, le verset 1, les versets 5 et 6, les versets 8 et 9, et le verset 11. Jésus-Christ resta sans péché, le seul être parfait qui parcourut jamais la terre. Voir Hébreux, chapitre 4, verset 15. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 et 22. Question. Quels récits de la vie du Sauveur ont une signification particulière pour vous?
Il nous enseigna comment nous aimer et nous servir les uns les autres.
Question. Comment le Sauveur nous a-t-il enseigné à nous aimer et à nous servir les uns les autres? Après son jeûne et sa rencontre avec Satan, Jésus commença son ministère public. Il vint sur terre non seulement pour mourir pour nous, mais aussi pour nous enseigner comment vivre. Il enseigna qu'il y a 2 grands commandements. Premièrement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force. Deuxièmement, aimer son prochain comme soi-même. Voir Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 39. Sa vie est un exemple d'obéissance à ces 2 commandements. Si nous aimons Dieu, nous lui faisons confiance et nous lui obéissons, comme Jésus l'a fait. Si nous aimons autrui, nous l'aidons à satisfaire à ses besoins physiques et spirituels. Jésus passa sa vie au service des autres. Il les guérit de maladies. Il rendit la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et fit marcher les estropiés. En une occasion, alors qu'il était en train de guérir des malades, il se fit tard et les gens eurent faim. Au lieu de les renvoyer, il bénit 5 pains et 2 poissons et put miraculeusement nourrir une foule de 5 000 personnes. Voir Matthieu, chapitre 14, versets 14 à 21. Il enseigna que nous devons faire tout notre possible pour aider les personnes qui ont faim, qui ont froid, qui sont nues ou qui sont seules. Quand nous aidons les autres, c'est le Seigneur que nous servons. Voir Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 46. Jésus aimait les autres de tout son cœur. Souvent, son cœur était tellement rempli de compassion qu'il en pleurait. Il aimait les petits-enfants, les personnes âgées, les humbles, les gens simples qui avaient foi en lui. Il aimait les gens qui avaient péché et leur enseigna, avec beaucoup de compassion, à se repentir et à se faire baptiser. Il affirma « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean, chapitre 14, verset 6. Il aimait même les gens qui péchaient contre lui et ne se repentaient pas. À la fin de sa vie, alors qu'il était sur la croix, il pria le Père pour les soldats qu'il avait crucifiés. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc, chapitre 23, verset 34. Il enseigna « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Jean, chapitre 15, verset 12. Question. Comment pouvons-nous montrer au Seigneur que nous l'aimons?
Il organisa la seule vraie Église.
Question. Pourquoi le Sauveur a-t-il organisé son Église et ordonné des apôtres? Jésus voulait que son Église soit enseignée aux gens de toute la terre. Il choisit donc 12 apôtres pour rendre témoignage de lui. Ils furent les premiers dirigeants de son Église. Ils reçurent l'autorité d'agir en son nom et de faire les œuvres qu'il l'avait vu faire. Les hommes à qui ils transmirent cette autorité purent aussi enseigner, baptiser et accomplir d'autres ordonnances en son nom. Après sa mort, ils continuèrent de faire son œuvre jusqu'à ce que les gens fussent devenus tellement méchants qu'ils tuèrent les apôtres.
Il nous racheta de nos péchés et nous sauva de la mort.
Suggestion. En étudiant cette partie, prenez le temps de méditer sur les événements de l'expiation. Vers la fin de son ministère dans la condition mortelle, Jésus se prépara à faire le sacrifice suprême pour tous les péchés de l'humanité. Il fut condamné à mourir parce qu'il avait témoigné au peuple qu'il était le Fils de Dieu. La nuit précédant sa crucifixion, il se rendit dans un jardin appelé Gethsémané. Il fut rapidement envahi par un profond chagrin et pleura tandis qu'il priait. Il fut permis à l'apôtre Orson F. Whitney d'avoir une vision de la souffrance du Sauveur. Il vit le Sauveur qui pleurait et dit « Cette scène m'émut tant que je me mis à pleurer également par pure compassion. Mon cœur tout entier allait à lui. Je l'aimais de toute mon âme et j'avais, plus que tout, envie d'être avec lui. » Voir le Liaona de décembre 2003, page 16. Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu, chapitre 26, verset 39. Dans une révélation moderne, le Sauveur a décrit la profondeur de sa souffrance. « Ses souffrances m'ont fait trembler de douleur, m'ont fait saigner de chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. » Doctrine et Alliance, section 19, verset 18. Il a souffert selon la chair, prenant sur lui nos souffrances, nos maladies, nos infirmités et nos péchés. Voir Alma, chapitre 7, versets 10 à 13. Aucun mortel ne peut comprendre exactement le poids de ce fardeau. Personne d'autre n'aurait pu supporter une telle souffrance de corps et d'esprit. Il est descendu au-dessous de tout, afin d'être en tout et à travers tout, la lumière de la vérité. Doctrine et Alliance, section 88, verset 6. Mais ses souffrances n'étaient pas encore terminées. Le lendemain, Jésus fut battu, humilié, et l'on cracha sur lui. On l'obligea à porter sa croix, puis il fut élevé et cloué sur elle. Il fut torturé de l'une des manières les plus cruelles que les hommes aient jamais imaginées. Après avoir souffert sur la croix, il cria, agonisant, « Mon Dieu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc, chapitre 15, verset 34. Au paroxysme de la souffrance de Jésus, le Père s'était retiré de lui afin qu'il puisse finir de subir le châtiment des péchés de tout le genre humain et triompher complètement des forces du péché et de la mort. Voir James E. Talmage dans Jésus le Christ, page 711. Quand le Sauveur sut que le sacrifice était accepté par le Père, il s'exclama d'une voix forte : « Tout est accompli. » Jean, chapitre 19, verset 30. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc, chapitre 23, verset 46. Il baissa la tête et rendit l'esprit volontairement. Le Sauveur était mort. Il y eut un violent tremblement de terre. Des amis déposèrent le corps du Sauveur dans un tombeau où il resta jusqu'au troisième jour. Pendant ce temps, son esprit alla organiser l'œuvre missionnaire auprès des autres esprits qui avaient besoin de recevoir son évangile. Voir 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Doctrine et Alliance, section 138. Le troisième jour, un dimanche, il reprit son corps. Il fut le premier à vaincre la mort. La prophétie selon laquelle il devait ressusciter des morts était accomplie. Jean, chapitre 20, verset 9. Peu après sa résurrection, le Sauveur apparut aux Néphites et établit son Église dans les Amériques. Il instruisit le peuple et le bénit. Ce récit émouvant se trouve dans 3e Néphi, au chapitre 11 à 28.
Son sacrifice montre son amour pour son Père et pour nous.
Jésus enseigna : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean, chapitre 15, versets 13 et 14. Il endura volontairement et humblement le chagrin de Gethsémané et les souffrances de la croix afin que nous puissions recevoir toutes les bénédictions du plan du salut. Pour les recevoir, nous devons aller à lui, nous repentir de nos péchés et l'aimer de tout notre cœur. Il a déclaré : « Et ceci est l'évangile que je vous ai donné, que je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé. Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi, pour qu'ils soient jugés selon leurs œuvres. Car les œuvres que vous m'avez vu faire, vous les ferez aussi. C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être ? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » 3e Néphi, chapitre 27, versets 13 à 15, versets 21 et versets 27. Question. Quels sont vos sentiments lorsque vous méditez sur le sacrifice que le Sauveur a fait pour vous?
Écriture supplémentaire et autres sources.
Le Fils unique du Père dans la chair. 2e Néphi, chapitre 25, verset 12. Jésus-Christ, appelé le Fils unique. Moïse, chapitre 6, verset 57. Vie et enseignement de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ordination des apôtres, puissance et autorité. Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 8. Luc, chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus dans le jardin. Trahison, crucifixion et résurrection. Matthieu, les chapitres 26 à 28. Marc, les chapitres 14 à 16. Luc, les chapitres 22 à 24. Et Jean, les chapitres 18 à 20. Le Christ vivant, le témoignage des apôtres, voir le Liaona d'avril 2000, aux pages 2 et 3.
Pour les instructeurs, ce chapitre contient probablement plus d'informations que vous ne pouvez en traiter en classe. Lors de la préparation de votre leçon, priez pour que l'Esprit vous guide dans le choix des parties qui seront les plus utiles pour vos élèves. Pour les instructeurs, la méditation favorise la présence de l'esprit. Vous pourriez demander aux élèves ou aux membres de la famille de lire en silence les deux dernières parties du chapitre et de réfléchir à ce qu'ils éprouvent pour le Sauveur. Demandez ensuite aux personnes qui le veulent de faire part aux autres de ce qu'elles ont pensé.